enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, bonjour à chacun. Effectivement, on a eu une très bonne, un très bon week-end avec les jeunes. Une chose que j'ai beaucoup aimée pendant ce week-end, c'est de voir, bien sûr, tous les jeunes, leur joie et tout ça. Mais aussi, on regardait un petit peu en coulisses comment c'était organisé, encadré, tout le suivi, tout ça. Et ce qui m'a beaucoup plu et encouragé pour l'Église, hein, c'est que ce sont tous des gens qui ont fait le service, la cuisine, etc., toute l'organisation. Ce sont des personnes de l'Église ici qui ont déjà eu le temps d'avoir été jeunes plusieurs fois, hein, chacun, et qui l'ont fait avec beaucoup de joie. Ils se retrouvaient peut-être pas toujours dans ce qui se faisait ici sur l'estrade, et j'en voyais quelquefois qui, du fond, regardait ou écoutait surtout avec une oreille un petit peu dubitative, hein. Ils se retrouvaient pas très très bien dans l'hymnologie, peut-être dans les décibels simplement. Mais ça n'empêchait pas que ce service a été fait de la part des personnes plus mûres, on va dire, de l'Église, en faveur des plus jeunes, avec beaucoup de consécration, avec beaucoup de joie. Et j'étais content de voir que ça, c'est la manifestation normale de l'Église, hein. Je crois que dans l'Église, c'est bien qu'il y ait des personnes âgées, c'est bien qu'il y ait des jeunes, c'est bien que ça manifeste la vie normale de la famille de Dieu. Et c'est dommage quand des jeunes, pour pouvoir vivre leur vie chrétienne, doivent se sentir obligés de se mettre à l'écart du corps de Christ pour pouvoir, entre jeunes, on va s'éclater. Et c'est dommage parce que c'est dommage pour eux et puis c'est dommage pour les autres. Mais là, vraiment, j'étais content. J'ai vu dans la cuisine, pour le service, il y avait une super ambiance, hein, de la part de toutes les frères et sœurs qui ont fait. Il n'y avait pas de problème, pourtant c'est stressant, c'est beaucoup de travail, mais ils l'ont tous fait avec beaucoup de dévouement et aussi avec beaucoup de joie. Et c'est l'Église des personnes plus âgées qui servait l'Église des plus jeunes, et il faut que les plus jeunes aussi servent les plus âgés. Ça c'est comme dans une famille normale, quoi, hein. Alors je dis, ça c'est quelque chose qui m'a encouragé pour la vie et pour l'avenir de l'Église. C'était une bonne chose. Voilà, je voulais le souligner et remercier encore tous ceux qui se sont vraiment vraiment donné de la peine, parce que c'est du boulot, hein. Faut certains étaient là pour le petit déjeuner pour le préparer depuis très tôt, et puis ça se termine aussi assez tard. C'est un peu fatigant et tout ça, mais c'est une joie de savoir qu'on travaille pour plus loin, pour plus tard, ok. Voilà, vendredi dernier, c'était donc vendredi saint. On a parlé un petit peu de la mort de Christ, hein, et j'aimerais aujourd'hui revenir ce soir un petit peu sur la résurrection de Jésus, même si, dans le calendrier, c'était dimanche, mais nous, on vit avec Jésus ressuscité tous les jours. Heureusement qu'il n'était pas seulement ressuscité dimanche, hein, mais il est ressuscité aujourd'hui. Alors même si on en parle avec deux jours de retard sur le calendrier, ça fait rien, hein, on est en avance de 364 jours sur le prochain aussi, quoi, hein. Voilà. Moi, un jour, je me suis demandé, depuis quand je crois que Christ est ressuscité? Et si je vous posais la question, vous, d'abord, peut-être, qui croit que Jésus est ressuscité? Voilà, 17, 18, 19. Bon, ça en fait beaucoup. Et si je vous demandais de réfléchir, depuis quand croyez-vous que Jésus est ressuscité? Et pour quelques-uns, il y aurait peut-être une date précise, mais je pense que beaucoup auraient de la peine à mettre vraiment à mettre une date, à mettre un événement. Et moi-même, finalement, je me suis dit que même si je sais quand je me suis converti, ça c'est une date précise dans ma vie, mais je me suis dit que déjà bien avant ça, je savais que Jésus était vivant. parce que je suis né dans une famille qui, même si elle n'était pas engagée dans le Seigneur comme je le souhaiterais toujours, mais déjà auparavant, j'avais toujours entendu que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Pour moi, c'était clair. Bon, je vivais comme si je le savais pas ou comme si ça n'était pas. C'était comme si c'était une parenthèse doctrinale. Mais finalement, une fois que je me suis converti, je me suis dit, mais je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Quel sens ça aurait de parler d'un Jésus qui serait mort ou qui ne serait pas ressuscité? Mais quel sens ça? Je trouve ça tellement triste. J'ai entendu une fois à la radio comme ça, un ecclésiastique, j'ose pas dire un pasteur, malgré le titre qu'il prétendait porter, mais disons un ecclésiastique qui n'avait pas l'air d'être persuadé que Jésus soit ressuscité. Quelle désarroi. J'ai trouvé ça, c'est le comble de ce que je trouve le plus triste, le plus regrettable, le plus pitoyable de ce qu'on peut trouver au monde. Que quelqu'un ne sache pas une chose, mais que quelqu'un se soit donné tant de peine pour arriver à se persuader de l'oublier. Ça n'a pas de nom. C'est tellement dommage. Donc je veux pas essayer de vous persuader que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, parce que Jésus est. Mais alors, moi j'aime seulement, on va seulement relire comme ça quelques textes qui nous en parlent. Vous voyez, quand on proclame l'évangile, on n'est pas en train d'essayer de le démontrer. On le proclame. On le proclame parce qu'il est. On parle de Jésus, on parle de sa victoire, non pas pour produire quelque chose, mais parce qu'on affirme que cette chose est, parce que Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut lire, par exemple, d'abord dans Luc, on revient juste avant la résurrection, au moment où Luc 23, au moment où Jésus est encore sur la croix, mais où il parle avec Luc 23. Oui, il parle avec celui qu'on appelle le brigand qui est crucifié. Quand j'étais gamin, on disait les deux larrons. Hein, c'est pas bon maintenant. Heureusement, on n'emploie plus ces mots-là. Ça fait un peu, je sais pas, un peu. Bon, c'est périmé, ça, hein, les mots, quoi. Hein. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Et il disait, mais toi, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Et lui dit, mais toi, est-ce que tu crains pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Nous, c'est juste, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et puis lui, il dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. J'aime tellement cette prière de cet homme, qui est à la fois une prière et qui en même temps est une proclamation. Parce que quand cet homme a dit « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne », il ne pouvait pas ignorer deux choses. L'une, c'est que la personne Jésus à qui il parlait était en train de mourir. Mais il ne pouvait pas ignorer non plus une deuxième chose, c'est que lui-même qui était à côté, il était aussi en train de mourir. Et alors, il parle à Jésus en lui disant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il parle du futur à quelqu'un qui est en train de mourir. Il sait que c'est une question de minutes, d'instants, peut-être de à la rigueur d'une heure ou deux, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, il sait que, en tout cas, Jésus est en train de mourir. Et il lui dit, quand tu viendras. Donc il croit, voilà un homme qui croyait à la résurrection de Jésus. Et pas seulement qui croyait à la résurrection de Jésus, il croyait que Jésus ressusciterait pour régner. Mais moi je trouve ça complètement ahurissant dans tout l'évangile, c'est le seul, écoutez bien, c'est le seul dans tout l'évangile qui a cru à la résurrection de Jésus à l'avance. Les apôtres à qui Jésus l'a expliqué, Les apôtres à qui Jésus a dit « Il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite le troisième jour » ont rien compris. Cette parole était voilée pour eux. Ils se sont même posé des questions théologiques entre eux sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « ressusciter des morts ». Comme si ça pouvait vouloir dire autre chose que ce que ça veut dire. Mais quand on comprend pas, on comprend pas. Et voilà que personne n'a compris. Et même quand Jésus était ressuscité et qu'il était devant eux, ils avaient encore de la peine à croire. Ça c'est fort, hein? Et voilà un homme, un criminel, un droit commun, qui n'a jamais suivi Jésus, qui n'est pas, à proprement parler, un disciple, quoi qu'il le soit devenu dans cet instant, mais qui proclame la résurrection de Jésus qui doit revenir pour régner. Il dit pas seulement quand tu reviendras, mais quand tu reviendras dans ton règne. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit qui est capable de convaincre, qui est capable de toucher vos cœurs, qui est capable de transformer le terrain de votre cœur qui peut-être est dur ce soir. Peut-être quelqu'un maintenant, mais à l'instant, est en train de se dire, mais moi, je sens que mon cœur est tellement dur. La parole de Dieu passe, elle tombe, mais mon cœur est dur. Mais écoute, je vais te dire, le Saint-Esprit peut changer le terrain de ton cœur. Dieu peut, par son Saint-Esprit, labourer maintenant le terrain de ton cœur pour que cette semence, elle rentre dedans, qu'elle pénètre, qu'elle porte du fruit, et que ce fruit te mène dans la vie éternelle. Et ce, aussi à qui tu pourras parler de ce Jésus que tu connais maintenant. Ne confesse pas toujours que ton cœur est dur. Confesse que la parole de Dieu est capable de lui donner la vie. Dieu est. Jésus est. Nous n'avons pas besoin de le démontrer, de le justifier. Nous affirmons parce que nous savons que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Cet homme a dit... Et non seulement cet homme a cru que Jésus ressusciterait, mais il savait que lui-même aussi, il ressusciterait. Il n'ignorait pas qu'il était en train de mourir. Il n'est pas en train de demander à Jésus de faire quelque chose pour lui dans cette vie, ici, maintenant, dans ces conditions. Sinon, il lui aurait demandé de l'aider à, surnaturellement, à descendre de la croix. Non, pour lui, il a admis que c'est quelque chose que pour ici-bas, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais il y a autre chose, il y a une autre vie après. Ça, il y croit, il le sait. Les scribes, les pharisiens avaient avec les sadducéens des disputes extraordinaires sur la théologie de la résurrection. Et ils avaient des arguments. Mais lui, il n'avait pas des théories, mais il avait la révélation par le Saint-Esprit. Il savait qu'il y a une vie après. Et il a dit, mais après ceci, après ces souffrances, après cette vie horrible que j'ai gaspillée, mais après tout ça, il connaissait déjà la grâce. Il connaissait déjà la grâce. Il n'espérait pas avoir le temps de faire quoi que ce soit pour mériter quelque chose. Il n'espérait pas avoir l'occasion de pouvoir se rattraper. Il pensait pas qu'il aurait l'occasion d'aller à l'église, de faire des œuvres, de donner de l'argent, de faire un pèlerinage, de brûler des bougies ou de faire des prières. Il n'espérait rien du tout. Mais il avait confiance. Il avait confiance dans Jésus. Il avait confiance que Jésus non seulement reviendrait, mais que lui, il serait vivant aussi pour l'accueillir dans son règne. Alléluia. Ça c'est la puissance du Saint-Esprit qui persuade nos cœurs. Ouvrez seulement votre cœur. Ouvrez seulement votre cœur à l'Esprit de Dieu. Ouvrez seulement votre cœur à l'influence du Saint-Esprit qui vous parle, qui vous persuade, qui vous permet de recevoir cette parole de Dieu. Buvez la parole de Dieu ce soir. Acceptez-la, laissez-la rentrer. Laisse-la rentrer. Laisse rentrer la parole de Dieu dans ton cœur maintenant. Laisse rentrer la parole de Dieu dans ton cœur maintenant. Je crois qu'il y a un homme maintenant, à l'instant, qui a de la peine à laisser la parole de Dieu. Il ne croit pas que la parole de Dieu puisse rentrer dans son cœur. Et je voudrais te dire de la part de Dieu que Dieu veut laisser rentrer, faire rentrer sa parole dans ton cœur. Simplement, n'y mets pas un obstacle. Ne pars pas du principe qu'il faut d'abord que Dieu te justifie sa parole. parce que Dieu ne le fera pas. Dieu n'est pas redevable de se justifier devant toi. Mais Dieu a promis de changer ton cœur. Il promet de changer le cœur dur de ton cœur pour en faire un terrain qui peut vraiment porter du fruit. On peut lire aussi dans Acte 2. Alors là, on arrive vraiment au moment où Jésus est ressuscité. Les disciples, les 12, et puis tous ceux qui étaient avec eux étaient tellement contents. Acte 2, 24, quand avant ils pouvaient pas trop le proclamer parce qu'ils n'avaient pas la force, mais quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre 2, 24, l'apôtre Pierre a proclamé Jésus, il a dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Parce que, dit-il, David a dit de lui, dans un psaume, il a dit, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Aussi, dit David, « Mon cœur est dans la joie, ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » Car il dit prophétiquement de Christ, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Il continue, il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Mais Pierre continue en disant, il ne s'agit pas de David lui-même, il s'agit de celui qu'il a annoncé, il s'agit de Jésus-Christ qui n'est pas resté dans le sein de la terre, qui n'est pas resté dans le séjour des morts, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il est vivant. Il citait, entre autres, vous pouvez trouver dans plusieurs psaumes, l'apôtre Pierre n'a pas inventé, il cite la parole de Dieu qui a été écrite des centaines d'années à l'avance et qui proclamait ces choses avant. Les apôtres n'ont pas, ne cherchaient pas à justifier les événements qu'ils vivaient par des arguments. Ils citaient des propos qui avaient été écrits à propos de ça par d'autres hommes de Dieu des centaines d'années auparavant. Et ils les attestaient comme ayant été écrits pour nous servir de signe. Quand quelqu'un est capable d'écrire des événements des centaines d'années à l'avance, c'est qu'il les maîtrise. Dieu maîtrise toutes choses. Jésus, le corps de Jésus a été mis dans le sein dans le tombeau, dans un sépulcre. Mais il n'a pas vu la corruption. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Encore Matthieu 28. Au début du chapitre, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Ils tombèrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, « Femmes, pour vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez celui qui a été crucifié, mais il n'est pas ici. Il est ressuscité. C'est ce qu'il vous avait dit. Il vous l'avait annoncé. Il est ressuscité. » Pourquoi est-ce que l'ange a roulé la pierre devant le sépulcre, hein? Quand j'étais enfant, je me suis, un moment, je voyais ça comme s'il avait roulé la pierre pour ouvrir le chemin, pour que Jésus sorte. Mais Jésus n'avait pas besoin que l'ange lui ouvre la pierre. Maintenant, son corps glorifié est un corps qui se manifestait, qui se déplace hors des limites dans lesquelles la matière, les molécules nous tiennent. Mais il pouvait se manifester quand il voulait, comme il voulait. La preuve, c'est que plus tard, il est rentré dans la pièce où se trouvaient les disciples, et tout d'un coup, tac, il était là. Il n'avait pas besoin que l'ange lui roule la pierre pour qu'il puisse enfin sortir. Il est sorti! L'ange a roulé la pierre, pas pour que Jésus sorte, mais simplement pour qu'on voit qu'il était sorti. Parce que sinon, personne n'aurait su qu'il était sorti. Mais ils ont, l'ange a roulé la pierre et il s'est assis. Je trouve cette histoire un peu amusante. L'ange, je pense que l'ange a dit aux femmes avec un sourire, a dit, mais vous cherchez quoi ici? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant. Quelques personnes aujourd'hui, dans notre siècle, cherchent Jésus parmi les morts. Ils le cherchent dans des manuscrits, ils le cherchent dans des cérémonies, ils le cherchent dans des pratiques, ils le cherchent dans des traditions, ils le cherchent dans des institutions, ils le cherchent dans des structures, ils le cherchent dans la poussière de philosophie même. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau du rationalisme. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est avec nous, il vit avec nous, il vit dans nos cœurs. L'ange leur a dit, mais vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous voyez bien qu'il n'est pas là. Il est ressuscité. D'ailleurs, hein? Il vous l'avait dit, non? Alléluia. Ça, c'est le christianisme. Hein? Ça, c'est le vrai christianisme. Hein? Pas une théorie. La personne de notre Seigneur. Ressuscité, vivant, et qui s'est proposé de venir vivre dans nos vies, dans nos cœurs, avec nous. C'est celui qui nous change et qui nous transforme. Encore un peu plus loin, on lit encore aussi dans Jean 20, à la fin donc de l'évangile de Jean, chapitre 20. Voilà, au verset 17, ça c'est quand Marie est allée, Marie-Madeleine est allée au tombeau. D'abord, il semble que un groupe de femmes y était allé toutes seules, et puis elles avaient vu l'ange, elles s'étaient un petit peu interloquées, elles sont allées trouver les disciples. Et puis, il y a un moment où, sans doute après ça, Marie s'est retrouvée toute seule devant le tombeau. Et Marie, verset 11, chapitre 20, verset 11, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, elle pleurait. Comme elle pleurait, elle s'est baissée pour regarder dans le sépulcre. Et là, elle voit deux anges, habillés tout en blanc, assis à l'endroit où on avait couché le corps de Jésus, hein, à la tête et l'autre au pied. Et les anges lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Mais elle leur dit, mais parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je sais même pas où on l'a mis. Et en disant ça, elle se retourne et elle voit Jésus qui était là, debout, à côté d'elle, mais elle savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu cherches? Alors elle pensait, comme le sépulcre se trouvait dans un jardin, elle pensait que c'était le jardinier qui était venu travailler là. Elle lui dit, écoute Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. Mais Jésus dit, en l'appelant par son nom, Marie. Alors là elle était choquée. Elle s'est retournée. Elle dit en hébreu, Rabouni, ça veut dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et puis dis-leur que je monte vers mon Père, c'est votre Père, vers mon Dieu, c'est votre Dieu. Alors Marie de Magdala est partie en courant, elle a été annoncée aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit toutes ces choses. Mais eux, ils ont dit, oh ça c'est des histoires de bonnes femmes. Oh là là, attends, voir les femmes quand elles se mettent à rêver, c'est grave, hein. Mais en tout cas, elles l'avaient vu, hein. Alors, peut-être qu'il, des fois, rend ce texte pour quelques personnes un petit peu difficile à comprendre, c'est parce que, tout simplement, il y a un petit peu une histoire de traduction, parce que, effectivement, en grec, elle dit, elle l'appelle Seigneur. Donc, quand nous on dit Seigneur, quand on voit que Marie appelle le jardinier Seigneur, on pense qu'elle l'a, ça crée une ambiguïté, on croit qu'elle l'a reconnu. Mais en fait, c'est seulement une forme, en grec, c'est seulement une forme un peu emphatique pour dire Monsieur. Elle n'avait pas reconnu, elle lui parle avec déférence. Hein. Alors, c'est, à mon sens, on ne devrait pas traduire comme ça, parce que ça entraîne une incompréhension. Elle lui dit, Monsieur, où est-ce qu'il est? Puis vous savez, elle était en train de pleurer, Alors elle avait les yeux tout brouillés de larmes, elle s'est peut-être pas vraiment retournée pour le regarder attentivement, tellement elle s'attendait pas à le voir. Mais quand il l'a appelée par son nom, alors son cœur la reconnaît. Quand Jésus t'appelle par ton nom, alors ton cœur le reconnaît. Quand tu sais que Jésus te parle à toi, quand Jésus te parle à toi, quand Jésus te parle à toi, alors ton cœur le reconnaît. Alors tu sais qu'il est là, et tu sais qu'il te parle, tu sais qu'il est pas loin, tu sais que c'est plus une question de religion, c'est pas une question de ce qu'on dit à l'église, c'est ce que Jésus te dit à toi dans ton cœur. Alléluia. Peut-être simplement tu peux dire, maintenant tu peux dire juste à voix basse, Seigneur, Seigneur, et tu l'entends qui t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Toi, tu te rends compte? Tu imagines? Tu imagines ça? Jésus t'appelle par ton nom. Il te connaît, toi. Il t'appelle par ton nom. Même si tu l'avais pris pour le jardinier, mais il t'appelle par ton nom. C'est un Seigneur de grâce. C'est un Seigneur tellement, tellement bon. C'est un Seigneur tellement extraordinaire, tellement, tellement gentil. Tellement gentil. Alors Marie l'a reconnue, après elle était tellement, tellement heureuse. On peut lire encore Luc 24, 36. Luc, 24, 36. On est encore un tout petit peu plus loin que cette conversation que Jésus avait eue avec Marie-Madeleine. Et puis maintenant, c'est dans l'après-midi. Les disciples sont dans la chambre haute. Ils sont réunis. Ils sont un peu inquiets sur leur sort. Et voilà que, tandis qu'ils parlaient ensemble, Jésus lui-même se présente au milieu d'eux. Il n'a pas eu besoin de sonner, hein. Il n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Il est là. Il arrive. Il est au milieu d'eux, comme il est au milieu de nous ce soir. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Eux, ils étaient saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit, un fantôme, si vous voulez, quoi. Mais Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs, hein? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est moi. Tenez, touchez-moi, regardez. Je n'ai ni esprit, ni chair, ni chair, ni os. Je suis pas un esprit. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, Jésus leur dit, bon, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alors ils ont trouvé quelque part, ils ont trouvé du poisson rôti, un rayon de miel, il en a pris et il a mangé devant eux. Quand ils ont vu qu'effectivement le poisson et les rayons de miel disparaissaient, ils ont dit donc c'est pas un fantôme alors, hein. Parce que si c'était un fantôme, le miel serait tombé par terre, hein, le poisson aussi. Mais donc comme c'est resté dedans, c'est que c'est pas un fantôme. Non mais moi je trouve que c'est quand même extraordinaire de voir que la nature humaine peut être si alourdi par l'incrédulité pour avoir de la peine à croire à des choses qui par ailleurs sont tellement évidentes. Des gens à qui Jésus lui-même avait dit qu'il ressusciterait, et pourtant, eh bien, ils étaient quand même incapables de le croire. Et même quand ils le voyaient, de leurs yeux vus, eh bien, ça leur était encore difficile. Jésus dit, mais je suis pas un fantôme. Un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas d'os, mais regardez-moi, j'ai des os. Jésus était le même. Même ressuscité, glorifié, il est le même. La preuve, c'est qu'il leur a montré ses mains. Quand Jésus est devenu homme, il ne s'est pas déguisé en homme pour un certain temps. Jésus est devenu homme. Et il est aujourd'hui encore l'homme, Jésus-Christ, fils de Dieu, glorifié. Et quand nous le verrons dans le ciel, nous verrons encore les marques des clous dans ses mains. Quand Jean a parlé de lui dans l'Apocalypse, il l'a vu sous une forme d'image comme un agneau immolé sur la croix. Chers amis, Jésus leur a dit, voyez, touchez-moi. Alors que nous avons lu tout à l'heure, il avait dit à Marie-Madeleine, quelques instants plus tôt, il lui avait dit « ne me touche pas ». Parce que quand Marie-Madeleine l'avait vu et qu'elle a reconnu que c'était pas le jardinier mais que c'était bien lui, alors dans sa joie, dans son enthousiasme de le retrouver vivant après ces 3 jours d'angoisse terrible où elle avait cru qu'il était mort, elle allait se précipiter vers lui, elle allait l'embrasser. Jésus lui dit « ne me touche pas ». Pourquoi ? Parce qu'il dit « mais je suis pas encore monté vers mon Père ». Jésus était encore en train de terminer son œuvre de grand sacrificateur. Il est descendu sur la terre pour faire cette œuvre de sacrificateur. Il est venu pour offrir la victime sainte lui-même. Christ a récapitulé en lui la victime et le sacrificateur. Il est les deux. Il est le sacrificateur qui offre la victime sainte. Alors ce sang précieux qu'il a versé, il devait le porter dans le lieu très saint. Le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, qui n'a été construit par personne, qui est la présence même de Dieu devant la face du Père. Jésus porte le sang de l'Alliance, l'Alliance nouvelle et éternelle par laquelle nous avons la rédemption, le rachat de tous nos péchés. Jésus devait le porter, il est arrivé, il a traversé tous les cieux, il est arrivé devant le Père, il a apporté le sang de la nouvelle Alliance. Et quand ce sang a été présenté devant Dieu, alors Dieu a agréé l'expiation de tous nos péchés. Mais c'est pour ça que tant que Jésus n'était pas encore monté vers son Père, il ne voulait pas avoir de contact avec quoi que ce soit de terrestre, quoi que ce soit d'humain, quoi que ce soit d'impur, quoi que ce soit de ce monde-ci. Mais quand cette œuvre a été faite, alors après, il peut se présenter quelques heures plus tard aux disciples et il peut dire aux disciples, allez, touchez-moi, vérifiez, puisque vous êtes lourd comme ça, vérifiez, regardez. Mais l'œuvre est faite aujourd'hui. Nous avons un libre chemin avec Jésus. Nous pouvons toucher la vie de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est pas hypothétique. L'espérance, c'est sûr, c'est certain, c'est véritable, c'est définitif. C'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles que Dieu fait. Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il a prêché la parole de Dieu à chacun et il prêche aujourd'hui aux vivants. Il prêche aujourd'hui, cet évangile est aujourd'hui prêché dans ce monde qui spirituellement est mort. Mais cette puissance de vie est capable de nous redonner une espérance extraordinaire. J'aimerais terminer par un verset dans Romains 8. Romains 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je redis doucement, Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est Dieu qui l'a ressuscité par son esprit. Donc si toute cette phrase, on dit Dieu à la place, et si Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si Dieu habite en vous, alors ce Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Encore plus court, si Dieu a ressuscité Jésus, si Dieu habite en vous, alors il va aussi vous ressusciter. Amen. Et c'est pas simplement la résurrection à la fin des temps. Marthe avait compris aussi les choses comme ça. Oui, à la fin des temps, la résurrection. Mais il s'agit pas seulement de oui, la résurrection à la fin des temps. Aujourd'hui, Dieu veut donner la vie à nos corps mortels. C'est pour ça que aujourd'hui, nous pouvons aussi prier pour les malades. C'est pour ça que aujourd'hui, parce que nous croyons que l'Esprit de Dieu habite en nous, alors il change aussi nos vies. Tout à l'heure, j'ai été interpellé par cette parole qui parlait de névrose. Et je crois aussi que nous devons bien comprendre que Dieu ne s'occupe pas seulement de notre esprit pour que nous soyons ses serviteurs spirituels ou de notre corps parce que notre corps nous fait souffrir. Mais entre l'esprit et le corps, il y a l'étage de l'âme et Dieu s'occupe de votre âme. Dieu s'occupe de notre âme. Dieu s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dieu aime ce qui se passe en nous. Dieu aime que nous soyons contents. Dieu aime que nous soyons heureux. Dieu aime que nous soyons satisfaits. Dieu aime que nous réalisions son projet pour nous. Dieu a fabriqué les sentiments. C'est Dieu qui est l'inventeur de l'affectif. C'est Dieu qui est le promoteur de l'émotionnel. C'est Dieu qui nous a rendus capables de penser, mais aussi d'éprouver, de ressentir. Et parce que c'est Dieu qui l'a fait, Dieu l'a fait de façon à ce que ce soit une bonne chose. Et si Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, alors il rendra la vie à ton âme mortelle qui est déglinguée. Nous pouvons prier et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu change et transforme ce qui en nous, dans les racines de notre cœur, de notre personnalité, ce qui a été mal construit, ce qui a été peut-être posé de travers, hein, quand l'éducation que nous avons reçue nous a fait peut-être partir dans des voies tordues, ce que le monde a fabriqué, comment nous avons subi des pressions qui nous ont distordu les ressorts de notre être intérieur. D'accord, tout ça c'est vrai. Mais si Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Alors il rendra aussi la vie à votre corps. Et je crois que le corps ici, Paul ne veut pas dire le corps dans le sens seulement du corps physique. Hein. C'est le corps dans le sens de la réalité entière de notre vie naturelle. Et ça comprend tout notre fonctionnement intérieur, le fonctionnement de notre intelligence, de nos émotions et de toutes les parties qui en dépendent. Hein. Chers amis, Jésus qui est ressuscité des morts, Jésus veut habiter en toi. Si Jésus veut habiter en toi, c'est pour te changer, c'est pour te transformer, c'est pour que tu parviennes à la pleine dimension de ce pourquoi il t'a créé. C'est pas pour vivre à moitié. C'est pas pour rester dans des problèmes, mais c'est parce qu'il veut le faire. Il est capable de le faire. Et ce soir, j'aimerais, quelqu'un aussi a prononcé un mot tout à l'heure que j'ai bien aimé. Le mot rire. Hein. Il y a des gens qui disent, mais moi j'aimerais bien rire. Mais ça fait drôlement longtemps que j'en ai pas eu l'occasion. Mais je voudrais te dire, Dieu aime que tu sois content. Dieu aime que tu aies envie de rire. Dieu aime que tu aies envie d'être épanoui. Mais la réalité n'est pas dans une technologie. La solution, la thérapie n'est pas dans une solution humaine. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait recourir à rien. J'espère ne pas mal m'exprimer. Mais je veux dire qu'au-delà de tout, au-delà de tout ce que les médecins, comme les médecins peuvent faire pour le corps, de même que tous ceux qui s'occupent du psychisme peuvent faire pour aider, tant mieux, merci Seigneur pour tous ceux qui font du bien. Mais au-delà de tout ça, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alors il rendra aussi la vie à votre âme mortelle. Il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Il rendra aussi la vie à vos émotions mortelles. Il rendra aussi la vie à votre personnalité mortelle. Amen. C'est ça, c'est celui-là que nous devons chercher. Amen. On va prier. Oh Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous proclamons ensemble. Nous n'avons pas besoin de faire des études pour démontrer, mais nous proclamons. Nous confessons de notre bouche que nous savons que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous savons qu'il veut habiter dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de tous ceux qui l'invitent à y rentrer. Notre Dieu, je veux maintenant te prier, Seigneur. Je voudrais te prier particulièrement pour tous ceux qui ont de la peine avec ces choses, avec cette réalité. Ceux qui y croient. Et qui en même temps sont inquiets, parce que Parce qu'ils se disent qu'ils manquent de démonstration. Ils manquent de preuves. Ils ont peur d'être trompés. Plusieurs ont peur d'être déçus. Plusieurs ont peur, ils disent, c'est comme avec les gens. C'est comme avec les gens, tiens. Voilà, c'est comme avec les gens. Je vais m'attacher, et dans quelque temps, je vais être déçu. Mais tu ne peux pas être déçu de Jésus. C'est impossible. Tu ne peux pas être déçu de Jésus. Tu seras souvent encore déçu de toi, mais tu seras jamais déçu de Jésus. C'est impossible. Laisse-toi attacher à Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, après je vais demander à Samuel s'il veut prier, mais Seigneur, je voudrais encore pour terminer, je voudrais te prier pour ceux qui souffrent dans leur âme. Pour qui la vie elle-même tout entière est pénible. Pour tous ceux qui portent la vie comme un fardeau. Pour tous ceux qui, même sans avoir envie de mourir, mais qui n'ont pas envie de vivre. Seigneur, je te prie pour tout cela. Je te prie pour que l'Esprit de Jésus en eux vienne réaliser le bon plan de Dieu, le plan d'épanouissement que Dieu a pour eux. Merci Seigneur d'être ressuscité pour nous. Merci d'avoir fait cette œuvre qui nous a donné la vie. Amen. Merci Jésus. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.